Radio Okapi. Des scènes de pillage signalées dans la cité de Bunagana, occupée jusque ce matin par les rebelles du groupe terroriste M23. Pour sa part, le porte-parole du gouverneur de province du Nord Kivu demande à la population d'être calme et de continuer à faire confiance au FRDC, décidé à défendre la patrie. Des enseignants du cycle primaire et secondaire du Sud Kivu bénéficient désormais d'un crédit moto. C'est sur l'initiative du syndicat national des enseignants catholiques et le délai de remboursement du crédit moto est de 2 ans. Enfin, 18e édition de la journée mondiale des donneurs de sang ce mardi 14 juin dans la région de Béni. À la suite de l'insécurité, plusieurs demandeurs de transfusion sanguine rencontrent des difficultés d'en avoir accès. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Dr Vianney Kambéré, responsable du centre de transfusion sanguine de Béni. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la cité de Bunagana est restée jusque ce matin mardi occupée par les rebelles du groupe terroriste M23. Selon plusieurs sources de la région, alors que tout est calme dans la zone, des scènes de pillage ont été signalées la nuit dernière à Bunagana. Le porte-parole du gouverneur, qui appelle la population au calme, lui demande toutefois de continuer à faire confiance au FRDC, qui reste décidé à défendre la patrie menacée. Bernard Nyangui.
Aucun crépitement de balles n'a été entendu toute la nuit durant, en tout cas, dans et autour de la cité de Bunagana, occupée depuis hier lundi par les rebelles du M23, confirme plusieurs sources dans le territoire de Rutshuru. Les cadres de base de Bunagana en déplacement dans le territoire voisin de l'Ouganda indiquent que, ce mardi matin, les rebelles auraient rassemblé quelques habitants qui n'ont pas pu se réfugier pour un rassemblement populaire où ils auraient appelé la population déplacée à retourner dans le village. Pendant ces temps, les mêmes sources signalent des cas de pillage de boutiques, maisons d'habitation, magasins et même certains bureaux par ces rebelles durant la nuit dernière. Les butins qui auraient été chargés dans les camions avant de les faire traverser vers les pays voisins. Au sujet des populations déplacées vers l'Ouganda, le chef du groupement de Jomba indique qu'à part les quelques dispositions d'accueil mises en place, aucune assistance n'a été accordée aux réfugiés congolais jusqu'à présent. Pour sa part, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a, dans un communiqué rendu public tard dans la nuit hier, appelé la population au calme. Le général Sylvain Kenge leur demande de faire confiance au FRDC qui reste décidé à défendre la patrie, peu importe ce que cela devrait coûter. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Cette occupation de la cité de Bunagana par les rebelles M23, les forces armées de la République démocratique du Congo parlent de l'invasion du Rwanda. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu l'a dit dans un communiqué rendu public tard dans la soirée, hier lundi. Pour le général Sylvain Kenge, les troupes rwandaises sont intervenues à découvert cette fois-ci en réponse aux nombreux revers que venaient de subir les rebelles du M23 face au FRDC le week-end dernier dans le groupement de Djomba. Le général de brigade Sylvain Kenge, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont cette fois à découvert décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Entre-temps, à New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, affirme dans un tweet, je cite, « Nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et nous condamnons l'utilisation de groupes agissant par procuration. » Fin de citation. Alors, la cité de Bounagana est de nouveau occupée depuis lundi matin par les rebelles du groupe terroriste M23, vous le savez, soutenus par l'armée rwandaise. Cette situation intervient 10 ans, jour pour jour, après une autre occupation de cette cité par la même rébellion. Pour plusieurs analystes, cette cité stratégique qui donne directement sur l'Ouganda voisin a toujours été une zone de prédilection pour diverses rébellions, le M23, mais aussi le CNDP, de triste mémoire. Rappel de principaux faits dans cet élément de Bernardin Nyangui, rendu par Bernardine Diambo.
Au lancement de cette rébellion en mai 2012 déjà, les troupes de Makenga Sultani parties une fois encore de Sabinyo, croisement des frontières RDC Ouganda au Rwanda, ont pris le contrôle de la cité de Bounagana, passant par les collines de Rudyonyi et Tchanjo. L'occupation de cette cité stratégique avait donné à cette rébellion toutes les opportunités de prendre successivement Rutshuru centre, Kiwanza en territoire de Rutshuru, avant de prendre le contrôle d'une bonne partie du territoire de Nyiragongo et tenter d'encercler la ville de Goma en prenant la colline de Mutao dans le Nyiragongo le 20 mai 2012, ce qui avait causé la prolifération de groupes armés autour des localités occupées par les rebelles du M23 et dégarnis par l'armée. L'occupation de cette zone stratégique avait aussi poussé la communauté internationale à appeler en juillet 2012 à une médiation de la CIRGL qui avait commencé en août 2012 entre le gouvernement congolais et cette rébellion. Ces négociations avaient faibli quand, le 7 novembre 2013, à l'issue de l'opération Pomme Orange, la rébellion avait battu en retraite Makenga, chef rebelle du M23, et au moins 300 de ses hommes ayant fui vers l'Ouganda avant de revenir encore depuis fin 2021. Goma, Bernardine Diambo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la CIRGL appelle tous ceux qui perturbent la paix et la sécurité dans les pays de la région des Grands Lacs à entendre l'appel pour la paix. C'est le secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL, l'ambassadeur Yassir Mohamed, qui l'a dit ce matin à Bujumbura lors de l'ouverture des travaux de la table ronde régionale conjointe sur la paix et la sécurité. Des travaux qui vont permettre, deux jours durant, d'échanger autour des résultats du programme paix et sécurité de la CIRGL, mis en place depuis 2 ans. Rosalie Zawadi.
Nous sommes proches des populations congolaises victimes des récents affrontements dans leur pays. Nous allons les accompagner, a dit ce matin l'ambassadeur Yassir Mohamed, secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL.
La CIRGL est un mécanisme de l'Union africaine. Nous avons des efforts et nous avons des coopérations avec l'Union africaine et d'autres organisations pour avoir la paix et la sécurité, pas seulement pour Rwanda, RDC, mais pour toute la région. Il faut entendre l'appel de paix et sécurité parce que ce sont nos peuples, les enfants, les femmes qui souffrent des actes de violence. On les appelle tous pour entendre l'appel de paix, l'appel de les sages, l'appel de médiation pour avoir la paix et sécurité. Parce que tous nous voulons la paix, nous voulons le développement pour notre région.
On peut compter sur la volonté des chefs d'État des 12 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et IRGEL qui sont engagés à favoriser la paix et un espace de vie agréable pour tous les peuples de la région, a ajouté un autre diplomate. Bujumbura, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis, ici à Kinshasa, les pays de la CIRGL se trouvent en conférence depuis hier sur la coopération judiciaire. L'objectif poursuivi est de mutualiser des efforts entre des experts en vue d'anéantir le terrorisme et toute forme de criminalité dans la région des Grands Lacs par l'échange des informations. C'est la ministre congolaise de la Justice qui a ouvert cette conférence prélude à la réunion des ministres de la Justice des pays de la région. Rose Mutombo circonscrit le cadre de cette rencontre au micro de Jeff Ngoy.
Les organisations criminelles et autres syndicats du crime semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les dispositifs judiciaires grâce notamment à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication ajoutées à la complexité de leur modus operandi. L'acheminement des fonds issus des crimes dans le but de cacher l'origine de leurs revenus frauduleux en constitue une parfaite illustration. Par conséquent, le système judiciaire de nos États respectifs se trouve confronté à plusieurs défis quant aux enquêtes et poursuites des dits criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. C'est pourquoi il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale.
Nous l'avons dit au sommaire, les enseignants du cycle primaire et secondaire du Sud Kivu bénéficient désormais d'un crédit moto. Le lancement officiel du projet moto à crédit a eu lieu hier lundi au lycée Chirézi de Bukavu. Une opportunité aux enseignants de lutter contre les difficultés auxquelles ils font face pour atteindre leurs écoles respectives. Le délai de remboursement du crédit moto est de 2 ans. Jacques Chirimwami du syndicat national des enseignants catholiques Sunekat Sud Kivu est au micro de Rachel Kiesembangu.
Nous sommes en train de développer les initiatives qui peuvent nous permettre de contourner les difficultés ou les problèmes que nous parcourons dans nos foyers. Voilà ce projet moto qui vient s'ajouter. C'est-à-dire, l'enseignant prend une moto à crédit. C'est le partenaire qui est en train de nous donner ça avec l'entreprise Aujin. Et donc, avec cette entreprise, il vous donne des motos. Et là, vous serez en train de payer ça pendant 2 ans. Mais cette moto sera en train de vous servir comme source de revenus. En fait, que l'enseignant, lorsqu'il a quitté l'école, du retour, qu'il soit rassuré que ses enfants vont manger. Et avant-hier, nous avions donné plus de 40 motos à Kamagnola. On a donné déjà beaucoup de motos à Uvira. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel dans les chefs-lieux. Et c'est toujours sous le pilotage du syndicat qui est en train de créer ça. D'où chaque enseignant qui sera intéressé accédera à la moto avec la convention de sa banque payeuse, surtout les enseignants qui sont régulièrement payés.
Autre nouvelle, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi annonce la tenue du 16 au 18 juin prochain du colloque sur l'itinéraire du vivre ensemble placé sous le thème « Osons une fraternité constructive au-delà de nos différences ». Cette rencontre qui intervient après le forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais vise la promotion de la tolérance, de la paix et de la solidarité entre ceux qui partagent le même espace de vie. Jean Gandou.
D'après Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, ce colloque réunira près de 500 personnes, parmi lesquelles les membres des partis politiques, des associations socioculturelles, de la société civile, ainsi que ceux d'autres communautés congolaises et étrangères vivant dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Muteba motive les raisons de l'organisation de ce colloque.
Mesurant d'une part les conséquences néfastes de la montée exponentielle ces derniers mois des tensions sociales entre certaines ethnies vivant dans notre espace vital, à la lumière d'une lecture des signes de temps et surtout à l'approche des enjeux électoraux de 2023, d'autre part soucieux du bien-être de la population que tous nous constituons en vue de prévenir les éventuels conflits entre groupes sociaux.
Pour le prélat catholique, ce colloque est le prolongement du forum organisé au mois de mai dernier et qui avait porté sur l'unité et la réconciliation des Katangais. Parmi ses objectifs, il y a notamment la lutte individuelle et collective contre toutes sortes d'exclusions, de discriminations, de xénophobie, de stigmatisation, de frustration, des discours haineux et incitateurs à la violence, des comportements, voire des provocations de nature à compromettre la paix sociale et le bien-être dans notre société. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis à Bunia, Ituri, le Bureau Congé des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO a remis lundi au gouverneur de province le bâtiment qui va abriter les services de la coordination provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme en Ituri. C'est dans le but de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans cette province sous régime militaire. Le président national de cette structure salue cet appui qui va permettre à cette institution d'appui à la démocratie de travailler désormais dans de bonnes conditions. Ézéchiel Mouzali a pris part à cette cérémonie et voici son reportage.
Ce bâtiment, dont le coût est de plus de 46 000 dollars américains, permet de redorer l'image du service provincial de la Commission nationale des droits de l'homme en Ituri. Il contient 5 bureaux, en plus d'une salle de conférence et de latrines extérieures. Avec cet ouvrage, ce service sera à mesure de bien faire le monitoring et la gestion des alertes pour des cas d'atteinte aux droits de l'homme. Sentiment de joie pour sa responsable provinciale, Marie Pachuriema.
Nous remercions beaucoup la MONUSCO avec le gouverneur. Déjà lors des plaidoyers, ils étaient toujours aux côtés de nous pour que nous puissions quand même être à l'aise pour le travail. Ça va nous laisser une ouverture aussi avec le monde parce que nous travaillons avec la population.
Pour sa part, le chef des bureaux de la MONUSCO appelle les usagers à une gestion rationnelle de ces bâtiments pour centraliser les alertes des cas d'atteinte à la dignité humaine en province. Josiah Obat.
Pour nous, les questions des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est très important et je crois que les travaux qui ça sera fait ici, ça va aider pour avancer les droits de l'homme ici dans les provinces. Et je crois que c'est ça l'importance de ce projet.
Signalons que parmi les appuis du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à cette institution de l'État, il y a notamment l'octroi des anciens bureaux de la MONUSCO aux services provinciaux de la CNDH à Lubumbashi et Kananga, en plus de nombreuses sessions de renforcement des capacités de son personnel. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, quelques jours, la semaine dernière, au moins 130 personnes ont été tuées dans la localité de Koulbous. Tout a commencé par une dispute autour d'une parcelle de terre faisant des morts parmi les tribus Riziega et Gim. Le conflit a rapidement dégénéré et les habitants ont fait face aux assauts répétés des milices armées. Une vingtaine de villages ont été brûlés, des milliers de personnes déplacées. Et puis Emmanuel Macron est attendu ce mardi en fin de journée en Roumanie avant de gagner la Moldavie mercredi 15 juin. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le président français visite ces deux pays particulièrement exposés. Il se rendra en premier lieu sur une base où sont déployées des unités françaises et belges sous commandement intégré de l'OTAN.
L'invité.
Nous sommes le 14 juin. Le monde célèbre la 18e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang sous le thème « Le don de sang est un acte de solidarité. Joignez-vous à l'effort et sauvez des vies ». Dans la région de Béni, à la suite de l'insécurité, plusieurs demandeurs de transfusions sanguines rencontrent des difficultés d'en avoir accès. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le responsable du centre de transfusions sanguines de Béni, Dr Vianney Kambéré. S'entretient ici avec Martial Papi Moukeba. Suivez.
Docteur Vianney Kambéré, bonjour.
Bonjour, Monsieur Moukeba.
Que représente la journée mondiale du don de sang?
La journée mondiale du don de sang, c'est une journée où le monde célèbre pour remercier tous les donneurs bénévoles de sang qui ne cessent d'aider à pouvoir donner la vie à toutes les personnes qui sont dans le besoin de produits sanguins. Donc l'objectif de la journée, c'est encourager davantage les personnes dans le monde à donner leur sang volontairement et régulièrement tout au long de l'année, afin qu'on puisse constituer des stocks, pouvoir permettre à subvenir aux besoins rapidement, parce que la transfusion sanguine, c'est un acte qui se pose pour les questions des urgences. Donc on veut récupérer une vie. Or, le produit sanguin, on ne sait pas les trouver en dehors des humains. Donc le laboratoire ne savent pas produire des produits qui peuvent remplacer ces tissus-là, parce que la transfusion sanguine, c'est juste une greffe qu'on réalise.
Et aujourd'hui, comment fonctionnent les centres de transfusion sanguine de Béni, une zone où il y a souvent beaucoup de blessés par armée blanche et à feu et qui nécessite la transfusion sanguine?
Le centre de transfusion sanguine ici à Béni essaie de donner de tout son mieux pour répondre à tous les besoins là. Et nous remercions ici l'appui des autorités pour permettre à ce que on puisse continuer à fonctionner malgré les difficultés que nous connaissons. Nous savons que nous ne couvrons pas les 100% des besoins en termes de produits sanguins, mais nous faisons de notre mieux pour que les formations sanitaires qui visitent le plateau technique du centre provincial de transfusion sanguine ici à Béni ne puissent pas manquer les produits dont ils ont besoin. Et nous encourageons encore tous les donneurs, toute la population qui essaye de se présenter au niveau du centre de transfusion pour permettre à ce que la provision puisse commencer à être toujours disponible.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
Pour des raisons d'insécurité, nous ne pouvons pas atteindre toutes les couches et même les formations sanitaires qui sont dans certains milieux n'arrive pas à venir s'approvisionner à temps opportun ici au centre de transfusion, ce qui fait que ils arrivent des fois encore à faire de prélèvements in situ dans certains contrées où on transfuse à chaud malgré que le centre est déjà installé ici. C'est l'accessibilité vers le centre qui pose problème. Il y a aussi d'autres zones de santé, à l'occurrence Mabalako et Kalunguta, qui jusque-là ne disposent pas encore de banques de sang pouvant leur permettre de stocker les produits sanguins. Donc ici, c'est à tous les décideurs de voir dans quelle mesure ils peuvent venir en aide à toutes ces contrées-là pour qu'ils puissent aussi être à mesure de commencer à garder les produits sanguins de manière sécurisée.
Et en termes des statistiques, combien de personnes ont souvent besoin de la transfusion sanguine dans la région de Béni?
La transfusion, c'est un acte qui se fait en urgence. On ne sait pas déjà dire quels sont les besoins, mais nous pouvons peut-être vous dire en moyenne ce que nous rendons disponible. Jusque-là, il y a plus de 600 unités de sang que nous devons rendre disponibles chaque mois au niveau des formations sanitaires. Et ici, il faudra encore se rappeler que ce n'est pas les 100% des formations sanitaires qui accèdent à ces produits. Il y a d'autres qui restent encore enclavés pour des raisons sécuritaires.
Vous recevez beaucoup de demandes?
Nous recevons beaucoup de demandes, mais nous constatons qu'il y a encore trop peu de donneurs.
votre message à l'occasion de la journée mondiale du don des sangs célébrée ce 14 juin.
Le message, c'est de pouvoir inviter tout le monde à pouvoir être reconnaissant d'abord envers tous les donneurs bénévoles qui se sont dévoués jusque-là et inviter les autres à venir rejoindre le mouvement, emboîter le pas comme le thème de cette année il le stipule, donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauver des vies.
Docteur Vianney Kambere, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.